on ne peut rêver d'amour plus pur. Claire se revêt de haillons et va mendier dans les rues d'Assise. À quelqu'un de sa race, il est facile de demander l'impossible. On nous dit qu'elle s'habilla d'un sac et mit sur sa tête un voile blanc, quittant la maison à la dérobée comme pour un rendez-vous. Un rendez-vous avec cet inconnu, la misère. Personne ne s'en douta. Mais qui donc, la voyant ainsi vêtue, aurait pu en croire ses yeux? Personne. Sauf François. Ce fut le commencement d'un des plus magnifiques rêves d'amour que l'humanité ait fait. Le voyait-il ainsi? C'est plus que douteux. Leur amour se perdait dans l'amour du Christ, et les mots n'existent pas pour donner une idée de ces liens mystiques. La chair ne pouvait y jouer aucun rôle. Elle existait cependant, présente, mais cachée dans les profondeurs de l'inconscient sans jamais se manifester. Nous en saisissons quelque chose dans la vision, une des plus étranges que nous ait léguée le Moyen-Âge, que Sainte-Claire eut plus tard au sujet de François. Elle révèle surtout une innocence, pour ainsi dire, abyssale, et cela même par ses stupéfiantes précisions. De toute évidence, elle ne comprenait pas le sens de ce qu'elle disait. Et comment trouver un langage de l'âme qui n'emploie pas d'expression charnelle? On voit très bien le parti que tireraient de ce document nos psychanalystes amateurs d'aujourd'hui. Mais les théologiens qui l'eurent sous les yeux au XIIIe siècle ne s'y trompèrent pas. La pureté du cœur flamboie dans la candeur des aveux. Il est certain que François n'en eut jamais connaissance. Cette croix-là, au moins, lui fut épargnée. Et quant à Claire, on l'eût scandalisée en lui disant que, même dans cet amour surnaturel, la nature ne pouvait être absente, l'âme étant unie au corps. Et comment cet amour s'exprimerait-il autrement que dans les termes de l'amour terrestre, avec l'inévitable vocabulaire de la sensualité? Quand on a sous les yeux le récit de la vision rapporté par les sœurs, ses compagnes à qui elle l'a confiée, comment ne se souviendrait-on pas du plus beau poème d'amour, qui est le Cantique des Cantiques, où toute l'Église a vu l'âme éprise de Dieu. Elle y parle le langage du désir, parce qu'elle n'en a pas d'autre pour traduire l'excès d'une passion indicible. Sœur Claire. Il va sans dire que les parents de Claire ignoraient tout des allées et venues secrètes de leur fille. Elle atteignait ses 18 ans, et depuis sa 12e année, ils lui cherchaient un mari. Cela ne pouvait durer, et elle résolut de quitter la maison paternelle. Le 18 mars 1212, dimanche des Rameaux, Claire assista à la messe pour la dernière fois avec ses parents. Elle devait s'enfuir la nuit même, frustrant ainsi à tout jamais leurs intentions et leurs espérances. Il ne pouvait être question de leur dire adieu. Et cette pensée la troubla au point qu'elle négligea d'aller prendre une des palmes qui se distribuaient à l'autel. L'évêque Guido descendit alors les marches et alla lui-même porter à Claire une palme qu'il lui remit dans la main. Était-ce si important? Le geste pouvait sembler insolite. Il n'en signifiait pas moins l'approbation symbolique de l'Église à la vocation de Claire. L'évêque, mis au courant par François, n'ignorait rien des projets de fuite. À l'aube, dans le plus profond silence, Claire et sa cousine Pacifica, qui voulait aussi devenir religieuse, sortirent par une porte dérobée qui n'était autre que la porte des morts, celle par laquelle les vivants n'eussent jamais voulu s'en aller, parce qu'elle ne livrait passage qu'au cercueil. Mais Claire et sa compagne ne se voyaient-elles pas déjà mortes au monde, appelées à une nouvelle vie? Elles gagnèrent Sainte-Marie-des-Anges, où François les attendait. Tout était prêt. C'était l'heure des matines, il faisait noir. Les postulantes furent accueillies à la lumière des cierges que portaient les frères allant au-devant d'elles, alors que dans les bois de la Portioncule retentissaient des hymnes d'allégresse. François, en vrai italien, savait donner toute la poésie voulue au premier pas vers le paradis de ses fiancées du Christ. De sa propre autorité, il les tondit, l'une et l'autre. Après quoi, elles se dépouillèrent de leurs riches vêtements qu'elles échangèrent contre la bure franciscaine. Normalement, c'eût été à l'évêque de remplir cet office de la prise d'habit et en particulier de couper les cheveux aux jeunes filles. Mais